Dans l'évangile, nous avons contemplé Jésus au désert. Et si nous avions lu la version de l'évangile selon Saint-Luc, nous aurions entendu à la fin du texte que Jésus avait épuisé toutes les formes de tentation. Et pourtant, chrétien, qui de nous, aussi forte qu'elle soit, osait imaginer que nos tentations seraient si grandes que celles que Jésus a subies? Avons-nous jamais été transportés au pinacle du temps? Avons-nous jamais embrassé d'un seul regard le royaume de la terre? Avons-nous jamais vu de nos propres yeux Satan lui-même venir faussement amical nous faire les propositions mêmes de la foi? Car enfin, mes pères, ce que propose Satan à Jésus, c'est ce que Jésus vient faire. Hormis peut-être la première tentation, encore que nous le verrons, multiplier les pains. Et multipliant les pains, très au-delà de tout, nous le voyons jusqu'à la fin des temps, multiplier le pain eucharistique. Et ceci étant dit, que vient faire Jésus? Sinon, saisir tous les royaumes de la terre, sinon être le roi de l'univers, non seulement le Christ souverain prêtre, mais le roi. Si bien que la tentation ne se définit pas par ce qu'elle paraît promettre, la tentation se définit par l'état de celui qui y succombe ou qui n'y succombe. Et en effet, à bien y réfléchir, lorsque nous considérons les trois tentations de notre Seigneur, oui, assurément, elles renferment toutes les autres formes de tentation. Et si le diable, ce qu'il ne manque pas de faire, s'approche de nous, c'est pour l'une ou l'autre de ces trois manières de nous désolidariser de Dieu. La perversité extrême consistant à nous désolidariser de Dieu en nous faisant croire qu'on lui est encore une ou qu'on lui est plus. Parce que le malin s'approche de nous pour nous tenter, cela n'a qu'un but, nous séparer de Dieu. Et vous connaissez bien entendu le péché contre l'esprit et comment il se décompose. Soit, pour l'orgueilleux, un peu vain, je n'ai pas besoin de la grâce. La force me suffit et j'y arrive. Et pour l'autre, même avec la grâce, je n'y arrive pas. Et tombant d'un côté ou tombant de l'autre, c'est souvent ce qui, petit à petit, nous sépare de Dieu. Tout enfin se tient donc dans cette union qu'il a bien voulu faire de lui avec lui, de lui avec lui. Cette grâce, qui est à lui-même qui vient en nous, et dont l'adversaire veut nous séparer. De sorte que, soit nous aurons une surcompensation de nous-mêmes, soit nous en aurons une grande désespérance. Mais, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, le but est le même et la réalité est la même, se séparer de Dieu. Voyez-vous, mais, dans la simplicité de l'être qui vous va si bien, lorsque vous considérez votre cas, l'intérieur de vous-même que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es fait pour des choses plus grandes, plus élevées, que ces misérables petits pétants. C'est autre chose que Dieu veut. Et cette autre chose ne vient jamais. Et bien alors, un peu plus tard, n'aurez pas été satisfait de vous-même, vous sentirez faiblir l'ardeur de vos résolutions, je n'y arriverai jamais. Alors, puisque j'arriverai jamais, pourquoi continuer? Le but est le même, me séparer de Dieu, me séparer de la vie de Dieu, me séparer de la grâce de Dieu. Tout en gardant l'illusion qu'après tout, j'y suis. D'ailleurs, n'est-ce pas, pour avoir l'impression d'être mieux en Dieu, d'être mieux dans la vérité vraie, comme l'on disait à l'époque, que l'on nous a fait cesser, petitement, j'allais dire progressivement, mais c'était des mal pris en mauvaise partie, nos pratiques, nos observances, nos œuvres de miséricorde, qu'à la fin du compte, lorsque nos frères se retrouvent devant le carême, à part manger un méchant bol de riz un jour, tous les garçons, ça peut très bien que faire, puisqu'ils n'en ont plus, ou qu'ils n'ont pas encore, tous les moyens que nous avons, nous, dans la simplicité de l'être. Et c'est notre attachement à ces petites choses, ainsi que je le disais ce matin, en reprenant la parole de Jésus dans la parabole des talents, que nous renforçons ce désir d'être unis à Jésus, que nous avons cette fin sans cesse de la grâce, gaspillée par la grâce, disait Saint Paul tout à l'heure, et cela ne signifie pas autre chose que cela. Alors bien sûr, vous pourriez imaginer que la grâce est quelque chose. Vous pourriez même imaginer que la grâce est différente de vous-même. Non. La grâce, c'est la vie de notre vie. Lorsque nous avons été baptisés, c'est la vie même de Dieu, la grâce sanctifiante qui est venue en nous-mêmes. Et cette vie-là s'unit à la nôtre. Ne gaspillez pas votre vie avec Dieu. Ce qui ne fait pas de la grâce, quelque chose d'autre de nous, mais ce qui fait de la grâce quelque chose de nous et de nous quelqu'un de nous. Voilà ce que le démon veut de nous gaspiller. Ne plus vivre de la grâce, ne plus vivre dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, ne plus vivre dans tout ce qui fait la vie même de Dieu. Toujours plus et toujours davantage nous renforcer et la laisser se renforcer en nous. Et pour cela, il faut aller au désert. Il faut d'abord, bien sûr, savoir qui nous sommes. Les enfants de Dieu adoptés dans le Christ, fils unique de Dieu. Ceux qui ont reçu la vie même de Dieu et qui à chaque instant reçoivent les merveilles de sa grâce. Nous avons reçu grâce sur grâce, dit le même Saint Paul. Des êtres exceptionnels, des êtres uniques, chacun, que Dieu aime d'un amour de direction et qu'il a choisi pour servir en sa présence selon la parole de Saint Hippolyte. Qu'est-ce que c'est que servir en sa présence, direz-vous? Vous en savez déjà quelque chose, puisque vous voilà. Mais la parole de Jésus est bien radicale, qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi et disperse. Alors, puisque nous ne sommes pas contre lui, mais tout au contraire avec lui, fût-ce imparfaitement, il faut qu'avec lui nous amassions. Faute de quoi nous disperserions. Il faut que nous travaillions pour autant que cela nous est possible et selon la vocation qui est la nôtre, au salut des âmes. Et le carême a sans doute vocation à nous perfectionner nous-mêmes, mais afin que nous soyons capables, par le Christ, dans le Christ et avec le Christ, de travailler au salut du monde, de travailler au salut des âmes. Lorsque nous savons cela, que nous savons que c'est pour nous une nécessité de faire fructifier nos talents, nous devons demander, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Et l'Esprit poussa Jésus au désert. Et Jésus nous dit, va dans le désert. Et il faut bien le dire, une grande partie de notre vie spirituelle se passe dans le désert. Et tout ça n'est pas anormal. Contrairement à ce que nous fait encore l'adversaire. Mais tout ça est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, d'être tenaillé de temps en temps par le doute. Dans l'ordre des choses, de sentir démuni, faible. Dans l'ordre des choses, d'avoir faim et soif, toujours davantage de la grâce divine. Et dans nos époques, cette impression de solitude, cette impression d'être le seul chrétien, qui ne peut échanger avec personne d'autre, qui autour de lui semble n'avoir que des païens. Et quand ces païens n'attaquent pas comme les bêtes sauvages du désert, c'est déjà bien long. Oui, très souvent nous sommes dans le désert. Plus ou moins selon nos forces, plus ou moins selon les décrets de la divine providence. Mais cela nous arrive à travers la maladie, la souffrance, la solitude, la vieillesse, et que sais-je encore, je pourrais ici décliner tous les mots qui pourraient nous toucher et qui nous touchent à travers nos histoires, à nous, sans parler des histoires à nous. Et c'est là, précisément, dans le désert, que nous forgeons notre être, parce que nous nous battons pour rester à Jésus d'abord. Car voilà deux temps, me semble-t-il. Il y a le temps où je résiste à moi-même. Il y a le temps où je me force moi-même, où je m'applique moi-même. Ce temps où je prie alors que je n'ai pas envie de prier. Parce que je ne me sens pas dans les bonnes conditions et que je suis agité de toutes sortes de troubles. Distraction, au sens pascalien du terme. Ces moments où il nous faut faire effort pour ouvrir le livre des Écritures et pour y lire quelques lignes, où il faut faire effort pour me rappeler la radicalité des commandements et des béatitudes. Oui, c'est l'ordre normal des choses, et c'est le désert, et je veux dire que bienheureux surtout, parce qu'il nous faut faire effort pour prier, ou pour observer, ou pour pratiquer, déjà que nous semblons douter de la valeur de nos mérites, quel mérite aurions-nous si cela ne nous demandait aucun effort? Vous avez vu le résultat? Faites-le quand cela vous plaît. Au bout de 40 ans, voyez, si on le fait encore, nous ne sommes plus que le petit reste d'Israël, comme on aurait pu dire à la fin du Vieux Testament. Mais pourquoi? Parce que nous nous appliquons autant que nous pouvons et difficilement. Pourquoi? Parce que nous tenons. Et que nous ne modulons pas notre pensée au rythme varié des pensées du monde. Mais quand l'adversaire voit cela, et c'est quasi instantané, il vient pour nous tenter. Comme le Christ est entré en tentation, nous entrons. Vous le direz-vous, le diable n'avait aucune espèce de chance de gagner ce match comme Jésus. Mais pourquoi Jésus a-t-il a-t-il voulu être tenté? Pour montrer qu'il était le plus fort? Ah ben, si nous avions attendu ça pour savoir qu'il était le plus fort, nous aurions été donnés un piètre croyant. C'est pour nous qu'il a voulu être tenté. Pour nous dire d'abord, quoi? Il ne doute de rien. S'il s'attaque à moi, à qui ne s'attaquerait-il pas? Rien ne se met à l'abri. Aucune force, aucune grandeur, aucune puissance ne se met à l'abri des tentations du diable. Mais il voit aussi que devant la réalité de Dieu, il ne peut rien. À une seule condition, me semble-t-il. Et cette condition n'est pas toute. Mais elle est essentielle. Si ce que tu fais n'est pas pour toi, mais pour le salut du monde, il en faut du temps pour que l'homme sache qu'il ne doit pas seulement bénéficier du salut, mais qu'il doit le communiquer en vivant une partie de son histoire. Je souffre en moi-même, dit saint Paul, ce qui reste à souffrir des souffrances du Fils. Et nous souffrons nous-mêmes à notre capacité une part des souffrances du Christ. C'est la seule condition de la victoire. Se tenir sauvé pour autant qu'on le peut, afin d'être sauvé. Et je ne saurais pas me tenir sauvé tout à fait si je n'étais sauvé. Je ne me tiens sauvé que parce que je suis sauveur, car n'est-il pas vrai que nul n'est impeccable devant la face de Dieu? Que sont alors ces tentations? Une faim. Et nous aussi, nous avons faim. Cette faim naturelle qui lui venait à lui, vrai homme, Dieu. Pour nous, c'est un autre genre de faim. Nous avons faim de savoir la vérité. Nous avons faim de mieux connaître la vérité. Nous avons faim de notre propre salut. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Et cette faim, on nous propose de l'apaiser par de faux moyens, sous prétexte qu'ils donneront le même résultat. Ce ne sont plus des pierres qu'on nous propose de transformer en pain, mais des pensées, des attitudes, des usages, des convenances, bref, tout ce que l'on nous apporte pour faire autre chose. En soulignant que le résultat sera le même. N'est-il pas vrai que tout seulement, une fois ou l'autre, le diable s'est approché de vous pour vous dire, mais plutôt que de faire ceci, ne fais pas cela. Plutôt que de jeûner le mercredi décembre, pourquoi tu fais pas autre chose qui te valoriserait à tes propres yeux, naturellement? Et le faux argument de la charité est une merveille qui fonctionne admirablement. Comme si l'un dispensait de l'autre. Nous qui n'appartenons pas à la religion du « ou », mais nous qui appartenons à la religion du « et ». Il ne s'agit pas d'être Marthe ou Marie, il faut être Marthe et Marie. Il ne s'agit pas d'être actif ou contemplatif. Il s'agit d'être actif et contemplatif. Alors l'autre, lui, nous proposera toujours les choses en manière d'alternative. Allez, tu as faim? Je vais plutôt attendre que ce soit le temps qui transforme ces pierres en pain. Et l'imagination de l'homme, sa naïveté aussi, est si forte qu'il se laisse grandement d'avoir. Et n'allez pas chercher d'autres moteurs de de la décadence spirituelle que celui-là. Même s'il entraîne avec lui d'autres. Et lui, pourquoi as-tu la possibilité de changer les termes? Parce que Dieu t'a donné sa grâce. Jésus aurait pu facilement transformer les pierres en pain. Ça n'est pas la faire d'un bien grand Dieu de faire ces choses, mais faire servir à son seul bénéfice. L'immensité du pouvoir messianique et rédempteur, ça serait inimaginable pour Jésus. Il faut que ce soit aussi inimaginable pour nous. Nous avons reçu la lumière de Dieu en nous-mêmes. Ça n'est pas pour notre propre satisfaction. C'est pour le salut du monde. Et sans doute que nous ferions plus en attendant l'heure de manger, dans le sens où je le dis, par la mortification, que en satisfaisant immédiatement nos désirs. Nous sommes, nous, les enfants de Dieu, les gens de l'attente. Les gens de l'espérance, les gens de la construction, de l'édification. Alors, nous attendons que le moment soit venu, nous ne cherchons pas à aller plus vite que la Providence, nous ne cherchons pas à changer les moyens, nous acceptons d'avoir faim, même si on pourrait se faire croire à soi-même que l'on a transformé les pierres. Voilà qui est saisi, amené au pinacle du temple, et qu'on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là-haut. Car il est écrit, il a donné pour toi, en rassemblant, de te garder en tous ses voies pour que ton pied meure de la pierre. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Avouez que l'exemple est totalement rustique. Que le diable, sachant bien qu'il n'a pas à faire de grands efforts d'imagination, est très basique pour employer les mots du temps. Et que si l'on était devant une telle alternative, sauter ou ne sauter pas, il est évident que nous ne sauterions pas. Mais les choses révèlent derrière elles d'ordre. Si tu es le Fils, Dieu va te trouver. Et à vous aussi, il dit, si tu es le Fils de Dieu, es-tu vraiment sûr d'être le Fils de Dieu? Es-tu vraiment sûr d'être ce que tu dis que tu es? Es-tu vraiment sûr d'être un bon chrétien? Es-tu vraiment sûr que Dieu t'aime et que tu l'aimes? Alors il va dérouler devant vous toutes sortes d'atrocités plus ou moins vraies. Et il faudrait qu'alors Dieu déchira les cieux et vint nous prouver qu'il est notre Père. Ce n'est pas Dieu qui a prouvé que nous sommes, qu'il est notre Père. C'est à nous. C'est nous qui avons prouvé que nous sommes ses enfants. Mais comment? C'est impossible. Ah bon? C'est impossible. Moi je crois que c'est très possible. Et alors, en plus, c'est extrêmement facile. Vous voulez savoir si vous êtes en grâce? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Avoir des sentiments, des agitations intérieures, des palpitations, je ne sais quelle élévation surprenante. Or, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est la foi, la certitude en soi-même. Mais elle se tient en nous. Alors, écoutez Jésus, le soir de la scène. Il parle beaucoup d'amour et de l'aimer. Les apôtres ne disent rien, les pauvres. Mais ils disent, comment faire? Ils se disent en eux-mêmes, en laissant troubler la manière dont est écrit le texte, tout le monde. Et Jésus, à un moment, leur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Pas celui qui les observe, C'est encore plus au-dessous, celui qui les garde. Alors, est-ce que vous gardez les autres? Est-ce que vous mettez en doute la parole de Dieu? Ou bien est-ce que les commandements de Jésus, c'est-à-dire pas seulement ce que les Hébreux ont reçu au désert par l'intercession de Moïse, mais cela porté jusqu'à leur achèvement qui est Dieu lui-même, c'est-à-dire fondé dans la béatitude. Est-ce que vous avez le désir de ces commandements? Est-ce que vous les gardez comme un absolu? Ou bien au contraire, est-ce que vous dites non, cela c'est fini, c'était pour les autres avant, ça c'était pour les Hébreux dans le désert, je n'ai donc que les commandements qui me plaisent bien. L'amour de Dieu, il n'est pas subjectif. Il est objectif. Vous imaginez les terreurs où nous serions chrétiens si l'amour de Dieu était subjectif. Chacun courrait derrière la subjectivité et dans les manifestations de la subjectivité trouverait la solution. Nous savons ce que ce genre de choses donne. Non, non, Dieu est objectif. Et si vous vivez en gardant les commandements, les observant pour autant qu'il vous est possible, oui, vous n'avez pas besoin de vous jeter du haut du pinacle du temple. Mais qu'est-ce que c'est alors que de mettre Dieu à l'épreuve, de tenter Dieu, on ne mettra pas Dieu? Eh bien, selon vos yeux, vous voyez que je m'abrite toujours derrière les mêmes, selon vos yeux, c'est ne pas coopérer à l'œuvre de Dieu. Attendre tout de Dieu, sans jamais rien faire soi-même. Eh bien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui fait parce qu'il sait que Dieu déjà est à l'œuvre. Vous connaissez le proverbe. Aide-toi et Dieu t'aidera. Mais c'est pas ça le proverbe initial. C'est aide-toi parce que Dieu t'aide déjà. C'est tout autre chose. C'est un renversement total de la chose. Alors, tentez-vous ou non, nous étions votre Dieu. En vous mettant dans une situation tellement difficile que vous n'en pouvez sortir. En vous arrêtant dans des dédales de pensées tellement piégées que voilà, que vous ne savez plus où est le bien, où est le mal, où est la vérité, où est la fausseté, où est la lumière et où sont les ténèbres. C'est cela, tentez-vous. En attendant que Dieu vienne nous sauver. Tentation qui nous est assez habituelle, de nous mettre dans des situations périlleuses, et d'imaginer que Dieu fera les choses sans que nous ne fassions rien. Et nous sauvera le monde sans notre secours. Alors que si sans lui nous ne pouvons rien faire, il entend que nous travaillons. Tout est créé sans toi, dit-il. Dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne, ce qui montre qu'il avait vu Saint Augustin, je t'ai créé sans toi, je ne sauverai pas sans toi. Et bien, la dernière tentation, la menace sur une robe d'âme, et lui dira, les royaumes du monde, et lui dit, si tu m'adores, je te les donne, si tu te prosternes devant moi. N'en doutons pas, chrétien. Jésus est venu pour avoir les royaumes du monde. Lui, le souverain Père, dont l'unique sacrifice sera le rédempteur de tous les temps et de tous les espaces, il entend qu'après cela, il est la parfaite maîtrise de tout. Lui qui est déjà par principe le roi de l'univers qui a été fait par l'homme d'impact. C'est bien pour cela qu'il vient. C'est bien pour cela que le Verbe s'est fait homme. C'est bien pour cela qu'il a pris sur lui, dans les eaux du baptême, les péchés des hommes. C'est bien cela pourquoi il acceptera le sacrifice de la croix. C'est bien cela qu'il sera donné dans la plénitude de la résurrection et mieux encore dans la royauté éternelle de son ascension. Et il reviendra pour juger le monde et les morts, et son règne n'aura pas de fin. n'est pas le but qui compte, c'est le moyen. Ce que le démon lui propose, c'est ce qui fait le propre d'un certain nombre d'erreurs, le péché sans la foi. Posséder tous les rois d'ordre du monde sans avoir la foi. Le démon le petit, assurément. Mais ramenons, je vous prie, ces choses à notre humilité. Nous, il ne va pas nous proposer tous les royaumes du monde. Qu'en feriez-vous, chrétiens? Mais il va proposer quelques biens intellectuels, quelques biens matériels, quelques biens temporels, quelques biens moraux, quelques biens affectifs, que sais-je. De ces choses, qui nous sont de légitimes recherches, que nous cherchons la paix intérieure, que nous cherchons la guérison, que nous cherchons l'équilibre, que nous cherchons le bien-être, que nous cherchons tant de choses, n'est pas un mal à soi. Depuis quand le bonheur serait-il un mal, puisque Dieu l'a donné. Il faut simplement que ce bonheur soit dans l'ordre. Et non pas dans le désordre. Et c'est une toute autre chose que la tranquillité dans l'ordre, pour citer encore le même saint Augustin, que la tranquillité dans le désordre. Ce que je veux, c'est la tranquillité. Peu m'importe que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre. Par toutes sortes de médiations, le démon nous propose la tranquillité dans le désordre. Nous ne cherchons qu'une chose, c'est la tranquillité dans l'ordre. Et l'ordre, une fois encore, c'est celui que Dieu définit lui-même dans les commandements que Moïse reçut au mont Sinaï. Et je ne peux pas sortir de cet ordre de Dieu, sous peine de mort. Sous peine de n'être plus avec Dieu. Pas sous peine de malheur ou de choses comme ça, j'en sais rien. Ça peut arriver. Vous pouvez rester dans l'ordre et avoir aussi des malheurs. Méfiez-vous de ce genre de raccourci rapide. Ce qui est le propre de raccourci d'ailleurs. Enfin, en règle générale. Méfiez-vous de ça. Simplement, je suis avec vous, je ne suis pas avec vous. Mais nous connaissons dans nos générations trois situations. Autrefois c'était clair, c'était Saint Paul et tous les autres, il y a avec Dieu et contre Dieu. Il n'est pas avec moi, il est contre moi, dit Jésus. Et nous allons devenir une nouvelle espèce, celui qui n'est ni avec ni contre. Qui se donne à lui-même sa petite loi, ça fait sa petite religion personnelle, et comme elle est beaucoup plus généreuse, ça c'est Dieu forcément, il vient de se l'inventer. Eh bien, ça lui suffit, il a appris sa petite religion un peu plus loin, on ne sait pas quoi, et elle est la sienne. Et elle est forcément merveilleuse, puisque vraiment Dieu est à son image. On pense au vieux Voltaire, Dieu a créé l'homme à son image, et celui-ci lui a bien rendu. Je suis ni avec ou contre, je suis ni pour ni contre. Quand il s'agit, 92% des catholiques, français, ça me paraît être un groupe important quand même. Ça vous paraît pas? Il y a 7% de radicaux religieux en France, 8% pour les gens qui sont vraiment hyper optimistes. Qu'est-ce que font les 92 ou 93 autres? Bien sûr, il y a les malades, les importants, les importants, les prisonniers. Enfin, quoi que les prisonniers, voilà, bien sûr. Moi qui suis un diocésain d'Évry, c'est la plus grosse maison française, c'est la plus grosse pratique religieuse du pays. Il faut vous le dire. Toutes religions confondues, parce qu'on sait plus très bien quelle religion on a, mais comme c'est l'Église catholique qui a le leadership, ça va. Mais il n'y a pas que ça, parmi les non-pratiquants, ceux qui sont au marché, ceux qui sont au supermarché, ceux qui courent dans les stades, ceux qui sont dans leur lit, ceux qui sont je ne sais pas où. Ça fait beaucoup quand même. Vous trouvez que 90 ou 93% de non-pratiquants? mais qu'il ne soit pas pratiquant, c'est très ennuyeux pour la quête du monde, je vous le conseille. Mais surtout ceux qui se sont bricolés leur petite religion là, et qui se sont trouvés des gens bien intentionnés pour leur dire combien ils avaient raison. Et quant à l'état de cadavre, ils sont là devant la tête, ici il y a peu de chance, mais ailleurs, on leur dira combien ils étaient grands, combien ils étaient beaux, combien ils étaient superbes. J'insiste sur des enterrements de saints, quant à moi. Il suffit de mourir pour être tout à fait en figure. On s'est fait un autre lieu. Et on s'imagine qu'on va avoir le ciel sans y avoir jamais participé sur la terre, en se tenant dans son confort tranquille. Car ces gens-là, comme beaucoup d'entre nous, ne parlent de la religion qu'en termes égoïstes. J'ai besoin, j'ai pas besoin. Mais le Christ n'avait pas besoin d'être présenté au temps, il n'avait pas besoin d'être circoncis, la Sainte Vierge n'avait pas besoin d'y arriver à la purification. Mais nous en avions besoin, et le monde en avait besoin. Et ce qui compte, c'est le monde en a-t-il besoin. Or, le grand malheur, c'est d'avoir fait croire aux croyants ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils peuvent être sauvés sans participer à l'œuvre de salut. Qu'ils peuvent être sauvés sans être sauveurs. Il suffit de ça, qu'ils se prosternent devant le diable. Et toutes les formes de diable entraînent naturellement une prosternation. Bien sûr qu'ils ne se prosterneront pas devant une statue, mais devant la gloire, devant le prestige, devant tout ce qui flatte leur orgueil, leur paresse, leur égoïsme, leur envie, le train interminable des péchés capitaux. Mais surtout, s'ils ont l'impression qu'ils sont bien, qu'ils sont dans la noce, alors rien ne les arrêtera dans cette prosternation. Car Dieu vaudra toujours moins que les biens. Alors mes frères, voyez combien ces tentations ne sont pas si lointaines de nous, et combien nous avons besoin de bien regarder, de bien discerner lorsque nous sommes tentés. Que nous soyons tentés, c'est normal. C'est là où se tient la vérité du combat. Au moins nous savons ce que c'est que le combat pour nous. Et dans cette tentation, il faut toujours reconnaître le but, nous séparer de la vérité de Dieu, nous séparer de la vie de Dieu, si possible, en nous faisant croire que nous l'avons encore, et peut-être même que nous l'avons encore mieux. Eh bien, encore une fois.